Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Il y a 400 ans, la reine Marie de Médicis posait la première pierre du palais du Luxembourg, aujourd'hui siège du Sénat. Franck Ferrand a choisi de célébrer cet anniversaire. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. L'image du Luxembourg de nos jours se confond tellement avec celle du Sénat que nous avons presque du mal à imaginer que ce palais magnifique sur la rive gauche de Paris ait pu être une résidence royale. Michel Carmona nous le rappellera dans un petit moment. Avant cela, je vous propose d'évoquer la grande commanditaire de cet édifice et de ses jardins, la très controversée Marie de Médicis, seconde épouse d'Henri IV. Vous savez, vendredi, nous parlions de la reine Margot, sa devancière. Autant considérer cette émission comme le deuxième volet d'un diptyque.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Gisèle sur l'interdiction dans le monde musulman de représenter le prophète.
Oui, je sais pourquoi Gisèle nous pose cette question. Il y a quelques semaines, j'avais parlé chez Thomas Soto de la crise iconoclaste et de la lutte de certains Byzantins, jadis, contre les figurations religieuses. Or, dans la foulée, nombreux avaient été les auditeurs à tenter une comparaison avec certains interdits de l'islam. Eh bien, j'essaierai tout à l'heure de clarifier tout cela. Pour le moment, place à la reine Marie et à ses idées de grandeur.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Les amoureux d'art et d'architecture, ceux qui connaissent bien les différents palais d'Europe, ne s'étonneront pas que les Médicis, en tout cas une Médicis, soit à l'origine du palais du Luxembourg, car il y a quelque chose de très Médicis dans cette architecture et dans cette incroyable luxuriance, à mi-chemin d'un classicisme à l'antique et en même temps de quelque chose de très baroque déjà. On y viendra bien entendu tout à l'heure dans le détail avec Michel Carmona, mais il faut bien que vous soyez conscient que les Médicis sont les grands mécènes, les grands amateurs à l'échelle de toute l'Europe. Ce sont des passionnés de peinture, de sculpture, d'architecture, de musique et bien entendu, on a pu voir en France avec Catherine de Médicis jusqu'où allait leur munificence. Catherine de Médicis, en octobre 1533, avait épousé le deuxième fils de François Ier, Henri, celui qui allait devenir le roi Henri II. Henri II est mort en 1559. Catherine de Médicis est devenue reine régente à ce moment-là et elle aura dominé les règnes de ses trois fils, François II, règne éphémère s'il en fut, Charles IX bien sûr, et Henri III. Elle meurt à la fin, toute fin du règne d'Henri III. Donc, on avait bien sûr conservé intacte la mémoire de Catherine de Médicis. Et voilà que, quelques décennies plus tard, une autre Médicis s'installe en France et c'est Marie. Marie qui a eu énormément de prétendants avant d'épouser Henri IV. Vous savez, quand vous êtes une des plus grandes fortunes d'Europe, évidemment, ça aide un peu. Henri IV va finalement l'emporter, si je puis dire. C'est à lui qu'elle va se marier, pour des raisons dynastiques d'abord. Vous savez, Henri IV a répudié sa première épouse, ça c'est ce que je vous rappelais, c'est ce que je vous racontais vendredi, puisque la reine Margot ne lui avait pas donné d'enfant, chacun commettait de son côté des infidélités. Bref, Henri IV avait obtenu en 1599 l'annulation du mariage. Il y a surtout, disons-le, des raisons financières, parce que ces banquiers de Florence sont immensément riches à une époque où le royaume de France, lui, a besoin d'espèces. Et en l'occurrence, la dot de Marie de Médicis va être de 600 000 écus d'or. J'ai pas parlé de livres. Quatre fois plus, hein. 600 000 écus d'or, 2 400 000 livres. C'est absolument gigantesque. Vous comprenez donc qu'on n'est pas du tout en présence d'un mariage d'amour. Du reste, Marie a 25 ans, Henri en a déjà 46. Il a eu un nombre de maîtresses totalement incalculable et à l'époque, il vit maritalement avec la marquise de Verneuil, Henriette d'Entragues. Il a fait mieux que ça. Il a promis le mariage à Henriette d'Entragues. Il lui avait fait une lettre en disant qu'il allait l'épouser, etc. Bon. Finalement, c'est donc celle qu'Henriette appelle la grosse banquière qui va devenir reine de France. Le mariage est signé par procuration, comme ça se faisait à l'époque, le 5 octobre 1600. C'est Bellegarde, hein, Roger de Bellegarde, qui représente le roi au cours de ce mariage par procuration à Florence. Et voilà Marie de Médicis qui se met en route. Alors, Évidemment, certains d'entre vous doivent imaginer Marie qui se met en route avec un ou deux carrosses. Vous savez, comme ça, elle prend la route. Non. C'est la future reine de France qui prend la route, avec une suite de 2000 personnes. Il a fallu 18 grands navires pour transporter tout ce beau monde jusqu'à Marseille, où Marie débarque pour constater l'absence de son mari. Mais que fait-il? Où est le roi Henri? Vous savez, le roi Henri, il n'y a pas grand-chose qui l'impressionne. Et il fait partie de ces gens qui se croient autorisés à faire attendre la planète entière. En l'occurrence, il est descendu, il a pris la vallée du Rhône. Il devait venir à la rencontre de Marie, sauf qu'à Grenoble, il est tombé sur Henriette d'Entrague qui est là, qui lui fait une scène absolument incroyable, tour à tour voluptueuse, mutine et brûlante comme l'enfer, nous dit un chroniqueur. Elle le tenait par la barbichette, elle lui fait des crises, des scènes incroyables et lui n'ose pas trop s'absenter finalement. Il est là, il est coincé, il est avec sa maîtresse qui est, vous l'aurez compris, un peu plus que sa maîtresse, qui ne veut même pas entendre parler de ce mariage avec la grosse banquière Florentine. En attendant, elle remonte la banquière. Marie de Médicis va aller jusqu'à Lyon. Quand même, elle a très mal pris l'absence de son mari et ce retard qui n'en finissait pas. Arrivée, elle a un très gros, très grand caractère. On aura l'occasion de le constater pendant tout le cours de cette émission. C'est même le moins qu'on puisse dire. Elle faisait des scènes, elle aussi. C'était un tempérament volcanique. À Avignon, elle menace carrément de faire demi-tour. C'est le 3 décembre de cette année 1600 que Marie fait son entrée à Lyon. Vous imaginez ce que peut être une joyeuse entrée de celle qui va devenir reine de France, qui l'est déjà par procuration. Elle entre, tous les corps de la ville sont là réunis, ce sont des discours à n'en plus finir, de grandes solennités, des cérémonies, etc. Sauf qu'on est le 3 décembre et que le roi n'est toujours pas là. Henri IV va se faire attendre jusqu'au samedi 9 décembre. Ça paraît quand même un peu incroyable, on n'y croyait plus. En fait, il était à Lyon avec son ami Rony, il était là incognito, il voulait avoir une occasion d'observer la reine sans qu'elle sût qui il était lui-même. Et donc, elle lui a plu, hein. Elle était tout à fait à son goût. Il faut imaginer une femme grande, ce qui n'est pas si fréquent à l'époque, avec un teint blanc, parfaitement blanc laiteux, ce qui était particulièrement apprécié, c'était les critères de beauté de l'époque, des yeux assez petits, des cheveux châtains, magnifiques. Bref, le 17 décembre, le pape arrive à Lyon, donne sa bénédiction au couple. Marie de Médicis devient reine de France et de Navarre. Elle n'est pas encore couronnée reine. Vous verrez que son couronnement interviendra bien plus tard. On suppose que les époux ont consommé leur nuit de noces, puisque le dauphin, le futur Louis XIII, va naître le 27 septembre 1601. Ce qui veut dire qu'il a été conçu très, très probablement pendant ce mois de décembre 1600. Vous voyez qu'ils n'ont pas perdu de temps. Oh, l'euphorie ne va pas durer bien longtemps. Henri IV écrit bientôt à Sully. « Je ne trouve ni agréable compagnie, ni réjouissance, ni satisfaction chez ma femme. Je suis contraint de dépit de la quitter là et de m'en aller chercher quelques récréations ailleurs. » Oh, il s'excuse Henri IV, parce que sur le fond, évidemment, quel qu'ait pu être son épouse, on imagine que les récréations n'auraient de toute façon pas manqué. Alors, dans la soirée du 9 février 1601, par un grand froid, il fait nuit déjà depuis longtemps lorsque Marie de Médicis arrive à Paris. Elle qui vient de Florence a un peu l'impression d'arriver en terrain barbare, hein, il faut bien le dire. Elle entre au Louvre qui est le vieux Louvre. Hein. Alors il a certes été un petit peu amélioré par François Ier, mais enfin, et par Henri II bien sûr, mais c'est encore un château pas très accueillant. Marie emprunte la petite rue d'Autriche, elle s'engage sous la porte du palais, une porte flanquée de deux grosses tours du Moyen-Âge, vous voyez un petit peu. Elle est si peu large, cette porte, que le carrosse n'arrive même pas à passer, il passe tout juste. Et il y a un étranger, un ambassadeur qui crie « Zeste d'une telle entrée ! Elle serait meilleure pour une prison que pour la maison d'un si grand prince !» Marie traverse une cour déserte, elle traverse la salle haute du Louvre, sans rencontrer personne, elle est dans cette maison à peine éclairée, ses peintures éteintes, c'est un choc. Je pense que ce soir-là, elle a dû s'enfouir sous ses édredons et pleurer un bon coup. Thank you.
Votre émission sur Europe 1 avec cet air de cour de Philidor interprété par l'orchestre de Jordi Savall. Vous écoutez Au cœur de l'histoire, votre émission. Chers auditeurs, on vous invite à participer, poser vos questions. Faites-nous part de vos messages par mail europe1.fr, par Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. On vous attend également sur la page Facebook de l'émission. Vous êtes au cœur de l'histoire sur Europe 1 et avec vous Franck Ferrand pour la suite de votre récit sur Marie de Médicis.
Alors Marie est arrivée au Louvre. Oh, elle va bientôt prendre ses marques. Je vous ai dit, c'est un grand caractère. Elle a été un peu choquée comme ça sur le coup. Mais très vite, elle va instituer de nouvelles mœurs à la cour de France. On parle toujours du rôle qu'a joué Henri III dans l'installation de ce qu'on appellera l'étiquette. Vous savez, ce protocole extrêmement pesant, en partie hérité de Byzance, en grande partie hérité de l'Espagne, mais aussi de la cour de Pologne, où avait régné de manière éphémère le roi Henri III. Marie de Médicis a sa part dans ce protocole. Alors, ses journées sont très réglées. Elle s'éveille aux côtés du roi. Ils partagent leur lit, même si le roi lui fait des infidélités très rapides. Mais enfin, tout de même, ils dorment ensemble. Ils prennent ensemble leur bouillon le matin. Trois fois par semaine, le mardi, le jeudi, le vendredi, Henri va tenir conseil. Dès 7h du matin, les conseils se tiennent tôt, à la fin du XVIe et au tout début du XVIIe siècle. Les matins de 1er janvier, c'est Sully qui apporte au roi et à la reine des étrennes. Ce sont des jetons d'or. Enfin bon, je ne vais pas entrer dans tous les détails. Alors, les femmes, les dames de la reine entrent pour l'habiller, bien entendu. Alors, il faut imaginer les tenues extraordinaires. Il y a un très grand peintre merveilleux qui s'appelle Bourbus qui nous a donné une idée de ces brocarts, de ces soies entièrement rebrochées d'or et d'argent, une finesse de résille d'or absolument sublime qui donne à toutes ces grandes robes l'apparence quasiment de chasse, dans le sens de reliquaire, si je puis dire. C'est quelque chose de très spectaculaire, bien entendu. La reine, la nouvelle reine, aime les chemises de soie blanche ou de soie noire, des bas de soie incarnat, jaune ou bleu. Elle porte des vêtements beaucoup plus colorés, beaucoup plus chamarrés que ceux auxquels était habituée la cour de France. Elle a une toilette absolument sublime. Alors, elle utilise un peigne d'ivoire, un vase rempli d'eau, une éponge pour faire sa toilette qui déjà est ce qu'on appellerait nous une toilette sèche. Elle est, Marie de Médicis, ne l'oublions pas, une Florentine, c'est-à-dire qu'elle a bien entendu les mœurs qui sont les mœurs de l'Italie, les mœurs extrêmement raffinées de sa famille et de cette civilisation. Alors, vous imaginez le temps qu'elle prend à choisir sa robe, à choisir ses bijoux, car s'il est une passion chez Marie de Médicis, c'est bien celle des joyaux. Alors, des bagues, des bracelets d'or garnis de 72 petits diamants, je vous livre les récits d'un inventaire. 1050 livres quand même pour le bracelet en question, c'est une somme absolument vertigineuse. Des pendants d'oreilles avec des diamants énormes, des montres, oui, montres d'or. 2100 livres la montre en forme ovale garnie de plusieurs diamants. Elle aime le luxe, elle l'adore. Dites-vous que lorsqu'elle va à la messe, son chapelet est d'or émaillé, est entièrement enrichi de diamants. C'est un peu un paradoxe, non, de dire ses prières et de faire ses prières à l'église avec un chapelet de diamants. Elle se parfume aussi beaucoup, des parfums très entêtants si l'on en croit les ambassadeurs de l'époque. Et puis, elle donne assez tôt ses audiences, car Marie entend bien assumer pleinement les fonctions d'une reine de France. Elle s'est vite pliée à ce qu'on attendait d'elle. Alors elle reçoit, quand je vous dis qu'elle reçoit ses audiences, si vous regardez bien en fait qui se présente, la plupart du temps ce sont des personnes qui font des robes, on vient lui présenter de nouvelles étoffes, des orfèvres et des horlogers et des joailliers bien entendu, et puis des architectes, car elle a en bonne Médicis aussi le goût de l'architecture. On va y venir dans un instant. Évidemment, c'est elle qui va, je vous le disais, alourdir un peu le protocole. Notamment, on avait l'habitude à la cour de France que les reines embrassent les princes, les ducs et même certains grands officiers de la couronne. Eh bien, terminé ça. On instaure la triple révérence. Et à partir de Marie de Médicis, ça durera ça jusqu'à la Révolution. Ça reviendra même avec la Restauration après la Révolution. C'est elle qui instaure tout ça. C'est elle qui instaure tout le grand protocole à la messe. C'est elle qui instaure les dîners, ce qu'on appellerait nous les déjeuners en public, etc., avec les dames debout autour de la table. Enfin, si je puis dire, elle est très parfaitement consciente de son statut et même un peu imbue de sa position, Marie de Médicis. Alors, il faut l'imaginer avec le roi Henri IV prenant ses repas au grand couvert aussi pour toutes les cérémonies de cour, menu très lourd. Louis Batifolle nous dit qu'il comprend régulièrement 4 entrées, 4 potages, entre lesquels le roi et la reine choisissent un service de viande bouillie, à savoir une pièce de bœuf de 10 livres, 5 kilos, hein, un haut côté de mouton, un chapon, une pièce de veau, 3 poulets, un service de viande rôtie composé d'une épaule de mouton, 2 chapons, 2 gibiers, une longe de veau, 3 poulets, 3 pigeons, une pièce de mouton. Enfin bref, évidemment qu'ils ne mangent pas tout ça, mais simplement on leur présente tout ça parce qu'ils sont le roi et la reine de France et qu'il faut, dans cette opulence même, réside une part de la symbolique du pouvoir qui est leur. Alors il faut imaginer les desserts extraordinaires qu'a rapporté Marie de Médicis dans ses bagages, si je puis dire. Le vin qu'on sert à la table royale, couvert, les bouteilles sont couvertes d'osier, ça c'est un petit raffinement italien qu'elle a apporté avec elle également. Et puis tout ça en musique, car Marie de Médicis vit littéralement entourée des 15 violons de sa musique. Hein, c'est un orchestre qui la suit partout. L'après-midi, elle va rendre visite à ses animaux, ses singes, ses perroquets, ses chiens, etc. On lui fait la lecture dans son cabinet, elle organise des loteries auxquelles court et accourt tout Paris, parce qu'évidemment, ce sont des loteries très richement dotées. On donne des concerts, je vous le disais, promenade dans les jardins du Louvre, dans les jardins des Tuileries. Les jardins sont importants. On sait l'importance que leur avait accordée Catherine de Médicis. Eh bien, Marie a encore peut-être davantage la main verte et en tout cas la passion des verdures, des façons de tailler, etc. Elle a amené avec elle un certain nombre de ses jardiniers. Elle se promène et quand elle rentre, ses collations de fruits, de confitures arrosées d'un peu de vin, servies dans son antichambre aux dames de la suite. Elle change encore de toilette, ce n'est jamais que la 3e fois dans la journée, elle se changera encore le soir pour le souper. Bref, Marie vit dans un luxe, dans une opulence qui peu à peu vont contribuer au lustre de la cour de France.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Bel après-midi sur Europe 1, nous sommes avec vous au cœur de l'histoire et Franck Ferrand, vous nous racontez la vie et le règne de la reine de France, Marie de Médicis.
Alors, parmi les plaisirs que Marie de Médicis va sinon introduire, du moins favoriser à la cour de France, il y a le théâtre, il ne faut pas oublier, elle se rend très régulièrement à l'hôtel de Bourgogne, le ballet, elle danse elle-même et elle aime avoir dansé. On joue beaucoup aux dés et aux cartes dans son entourage, ça ce sont des mœurs italiennes qui sont peut-être revenues avec elle, car dès l'époque de Valentine Visconti, déjà, sous Charles V et Charles VI, on avait pris l'habitude de jouer aux cartes. Elle écrit beaucoup, Marie de Médicis. On a une imposante correspondance. Ça, c'est très intéressant parce que ça livre un grand nombre d'informations aux historiens. Bref, il ne faudrait pas pour autant imaginer que tout cela se passe dans une très joyeuse et douce ambiance. Car, je vous l'ai dit, la reine est dotée d'un certain caractère. Et alors, elle ne supporte pas son mari. Elle ne tolère rien chez lui. Il faut vous dire qu'il la trompe abondamment, ça n'arrange sûrement pas les choses. Les disputes sont violentes, orageuses, elle casse la vaisselle. Et alors, ce sont des disputes très fréquentes qui vont bien entendu devenir bientôt un secret de Polichinelle. On sait que le roi et la reine passent leur temps à se disputer. Ça ne les empêche pas quand même de faire des enfants, puisque on verra Marie de Médicis subir coup sur coup 6 grossesses en 9 ans. Ça va d'ailleurs beaucoup l'épuiser, cette histoire. Mais une chose est sûre, la continuité monarchique est maintenant assurée. La reine veut, elle a déjà le titre de régente à chaque fois que le roi est censé s'absenter, mais elle veut davantage, elle veut se faire couronner, parce que je vous l'ai dit, elle est devenue reine de France en épousant le roi, mais elle n'a pas été sacrée reine de France, et ça, elle veut être sacrée. Ça a lieu le jeudi 13 mai 1610, en l'abbatiale de Saint-Denis, qui par ailleurs se trouve être la nécropole des rois de France. Jamais assemblée de noblesse ne fut si grande, écrira Richelieu. Jamais de prince mieux paré, jamais les dames et les princesses plus riches en pierreries. Ça a été une cérémonie extraordinaire. Attention, on est le jeudi 13 mai 1610 et dès le lendemain, vendredi 14, eh bien le roi, vous savez, va rendre visite à son ministre Sully qui est malade. Il prend la rue de la Ferronnerie, il n'aurait pas dû. D'ailleurs, il n'avait pas envie. On se demande si la reine ne l'a pas plus ou moins poussé dehors ce jour-là. En tout cas, toujours est-il que son carrosse va être attaqué par cette espèce de personnage, la Ravaillac. Est-ce que l'on a armé le bras de Ravaillac ? C'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Toujours est-il que Ravaillac tue Henri IV de deux coups portés, de deux coups de couteau portés à la poitrine. Le roi ne va pas tarder à mourir et Marie de Médicis, alors d'abord il faut l'imaginer se griffant le visage et s'arrachant les cheveux, c'est une scène de désolation extraordinaire, mais très vite elle va imposer à travers le Conseil sa vision de la France et de la politique. On va y venir avec Michel Carmona dans un instant. C'est le début d'une véritable, comment pourrait-on dire, contre-réforme catholique politique en France, hein, c'est-à-dire que le catholicisme d'État va s'étendre pendant toute sa régence, sous l'influence des fameux et des redoutables Concino Concini, le maréchal d'Ancre, et son épouse Leonora Galigai. J'ai eu l'occasion de vous en parler, de ce couple d'affreux, si je puis dire, qu'elle avait ramené avec elle et qui, littéralement, vont la mener par le bout du nez pendant de très nombreuses années. Concini est fait maréchal d'Ancre par Marie de Médicis elle-même. On était dans une politique jusqu'alors avec Henri IV qui était une politique plutôt anti-espagnole et qui commençait à se tourner très sérieusement vers les monarchies protestantes du nord de l'Europe. D'ailleurs, Henri IV était, au moment où il est assassiné, à deux doigts de lancer en Europe une guerre très importante contre les puissances catholiques. Et évidemment, retournement complet. Désormais, la politique de la France va se faire en faveur des puissances catholiques. Et chose unique dans toute l'histoire de France, les ambassadeurs d'Espagne et d'Autriche vont siéger au Conseil. Vous imaginez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la souveraineté du pays est entamée par la présence de ministres plénipotentiaires étrangers au Conseil du roi, du tout jeune petit roi Louis XIII, bien entendu. C'est Louis XIII qui, en avril 1617, fera assassiner Concino Concini. Quand je dis qu'il le fera assassiner, soyons plus exacts, il le laissera assassiner, on le fera en son nom en tout cas. En février 1619, la reine qui avait été mise en résidence surveillée va s'échapper de Blois, alors dans des conditions totalement rocambolesques. Elle s'échappe par une échelle de corde. Enfin, c'est tout à fait. C'est quand même, l'histoire de France est riche en épisodes absolument inouïs, quand même. Elle franchit un mur de 40 mètres éboulé. Enfin, bref. Elle ira se réfugier au château d'Angoulême, provoquera un soulèvement contre son fils. C'est Richelieu, devenu principal ministre, qui va rabibocher la mère et le fils, établir une sorte de modus vivendi. Mais à partir de là, on peut dire que c'est une guerre quasi permanente entre Marie de Médicis et son fils Louis XIII. Qui la perdra cette guerre, c'est évidemment Marie. Sauf que, et c'est ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, en 1615, cela fait donc à peine 5 ans qu'elle est régente, régente de France, qu'elle a vraiment en main les rênes du royaume, et elle commande à Salomon de Brosse, qui n'est pas du tout n'importe quel architecte, une sorte de palais Pitti à la française. C'est ça l'idée au départ. Le palais Pitti avait été bâti au XVe siècle sur les plans de Brunelleschi. Eh bien, on va s'en inspirer pour monter ce château qui dont la construction va être réellement lancée quelques années plus tard. Il est achevé en 1620. Quand je dis achevé, la première partie est achevée en 1624. La reine s'y installe avant même la fin définitive des travaux en 1625. Elle fait venir d'Anvers le peintre Pierre-Paul Rubens, vous savez, et lui commande cette extraordinaire suite de peintures, ce qu'on appelle le cycle de Marie de Médicis, ces 21 allégories qui aujourd'hui encore font la gloire des salles de peinture des galeries françaises du Louvre, bien entendu. Seules 13 d'entre elles étaient destinées au logement de Marie de Médicis. Seules 13 seront réalisées sur les 21. Une, ce sont celles que nous avons encore, hein, ces grandes toiles absolument magnifiques. Marie de Médicis suit de très près le chantier du palais du Luxembourg. Elle attend de voir son palais du Luxembourg terminé avec son extraordinaire écrin de verdure. Hélas pour elle, il va y avoir de gros problèmes avant cela. Elle va devoir s'exiler et elle mourra bien avant que le chantier ne soit terminé. Bonjour Michel Carmona.
Bonjour.
C'est ce palais du Luxembourg, c'est ce rêve de Marie de Médicis que nous allons revisiter avec vous dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
«
au cœur de l'histoire sur Europe 1, au cœur de la vie de Marie de Médicis et du Palais du Luxembourg, avec vous Franck Ferrand et avec votre invité, l'historien Michel Carmona, auteur notamment de Marie de Médicis, paru aux éditions Fayard.
Oui, c'est toujours mieux d'avoir le biographe avec soi et qui plus est, grand connaisseur des principaux monuments de Paris et notamment de ce Palais du Luxembourg sur lequel nous allons nous attarder dans un instant. Avant cela, nos auditeurs sont très curieux, cher Michel Carmona, de savoir quel lien de parenté existait entre Catherine de Médicis et Marie.
C'est une petite nièce. Voilà les liens de parenté.
Donc
c'est bien
fort,
la famille
un fort
Médicis.
Lien de parenté, hein,
mais il y a un fort lien de parenté. Et le père de Marie de Médicis lui-même était grand-duc de Toscane. Il lui a fait une enfance très malheureuse.
On dit grand-duc de Toscane, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, cette Toscane est un État indépendant, c'est donc un souverain en fait.
C'est un État indépendant et comme vous l'avez dit Franck, c'est un État extrêmement important dans l'Europe de cette époque. D'ailleurs, vous avez parlé des Habsbourg, de l'Allemagne, de l'Espagne. Eh bien, la mère de Marie de Médicis est une Habsbourg elle-même. Et donc, il y a des alliances avec les plus grandes familles de l'Europe catholique
de cette époque. Henriette d'Entragues aurait voulu nous faire croire qu'elle était en quelque sorte que cette grosse banquière n'était qu'une bourgeoise. On est quand même là dans ce qui se fait de mieux dans le Gotha de l'Europe. Mais alors c'est vrai qu'il y a des banquiers à l'origine.
C'est vrai que c'est des bourgeois qui sont devenus
voilà,
noblement fins. Ils sont effectivement parmi les gens les plus raffinés de l'Europe de cette époque, tout à fait indépendamment de leur richesse.
Alors Marie, qui pourtant a été particulièrement soignée par le peintre Rubens, on a cette série d'une douzaine, une grosse douzaine de grandes toiles qui se trouvent donc au Louvre, qu'il faut absolument aller voir, c'est magnifique. Elles ont changé complètement de mise en scène et d'encadrement d'ailleurs du temps des nouveaux aménagements du Louvre. Autrefois, elles étaient dans des immenses cadres en marbre noir. Je trouvais ça très spectaculaire. Moi. Enfin bref, c'est une parenthèse. Et cette Marie de Médicis, qui a été reine régente dès la mort de son mari en 1610, cette Marie de Médicis qui a quand même amené Richelieu au pouvoir, a néanmoins, dans l'histoire de France, une très sale image, il faut bien le dire. Elle est la reine détestée, Michel Carmona.
Tout à fait. D'ailleurs, combien de fois on m'a dit « Mais qu'est-ce que vous avez à vous intéresser à ce personnage-là » On ne va pas dans les bas-fonds de l'histoire. Celui qui a contribué à lui faire une image épouvantable, c'est celui qui est un peu le grand référent
le grand
de notre histoire républicaine, c'est Michelet. Voilà, et Michelet la dépeint sous des dehors absolument épouvantables. C'est une espèce de grosse créature stupide, complètement gouvernée par les consignes que vous avez évoquées tout à l'heure. Enfin bref, c'est une nullarde. Alors, la raison, c'est quoi? C'est qu'effectivement, elle a fait monter Richelieu à l'intérieur du système de pouvoir et en a fait le premier ministre de la France. Mais elle a fini par se brouiller avec lui. Et il y a eu des tensions extrêmement pénibles et il y a eu précisément au Palais du Luxembourg alors un épisode très important de ce XVIIe siècle qu'on appelle la Journée des Dupes, dans laquelle Marie de Médicis...
On
est en novembre 1630. Marie de Médicis fait une scène à Louis XIII pour qu'il se débarrasse de Richelieu. C'est à cause de la politique extérieure, parce qu'elle considère que c'est Richelieu qui est le moteur de l'évolution de la politique de Louis XIII, qui maintenant, comme son père Henri IV,
retourne contre
les catholiques sur le plan européen. Alors, Louis XIII est un scrupuleux, et donc on essaye de travailler sa conscience, de dire ce n'est pas bien, c'est l'enfer qui est au bout, si votre majesté fait la guerre aux catholiques, etc. Et à côté, il y a Richelieu qui lui dit, il y a la raison d'État, et la raison d'État, ce n'est pas la raison des particuliers. Voilà. Et vous n'irez pas en enfer, parce que vous défendez le droit. C'est un moment où on n'a jamais autant parlé du droit et de la France comme défenseur du droit qu'à cette époque, pour justifier l'entrée en guerre contre les grandes puissances catholiques que sont les Habsbourg.
Alors ça, ce sont les années 1628, 30, 32, quand ça va mal, si je puis dire. Oui. Mais avant ça, Marie de Médicis a eu un pouvoir quasi sans partage du temps de la minorité de son fils.
Quand il y avait la minorité de son fils, elle régnait. Alors elle régnait... D'ailleurs, elle a tellement sous-estimé son fils, l'a tellement traité comme un idiot et un imbécile, elle ne se gênait pas pour le dire. Pour le dire, il ne s'intéresse à rien, que finalement Louis XIII a même eu peur pour sa propre existence, pour sa propre vie. Et plus on disait qu'il était stupide, plus il en rajoutait lui-même pour ne pas donner des soupçons à sa mère, qui avait une très nette préférence pour son cadet Gaston. Et comme chez les Médicis, on peut rappeler qu'on avait une forte tradition de coups de poignard, de poison, etc.
Gaston d'Orléans passera sa vie à trahir son frère, hein,
contre,
du reste.
Voilà, contre son frère. Et donc, Louis XIII fait l'imbécile et l'idiot jusqu'au moment où il y a cet assassinat réussi de Concini en 1617. Alors à ce moment-là, Marie de Médicis a la trappe. Elle s'est tellement mal conduite à l'égard de Louis XIII que Louis XIII décide de ne plus vouloir la voir. Il l'exile, il la chasse de la cour. Et il, alors, ce qu'il voudrait, c'est la renvoyer à Florence. C'est dire, hein. Marie de Médicis s'insurge et finalement on transige et on décide de l'envoyer au château de Blois, ce château d'où elle s'évadera 2 années plus tard. Alors, mais donc, les relations sont au plus mal.
Avant cela, elle vivait au Louvre, bien entendu. Pourquoi décide-t-elle de faire bâtir ce palais du Luxembourg ?
La raison de cette décision, elle est toute simple. Lorsque Henri IV meurt, bien sûr, elle devient régente. Mais elle sait que, naturellement, elle ne sera plus la reine régnante. Il va y avoir un jour une reine qui va épouser Louis XIII, qui va s'installer au premier étage du Louvre, va occuper le bel appartement royal de la reine, et elle, elle n'aura plus qu'à s'exiler. Exactement comme Catherine de Médicis autrefois, qui quitte le Louvre pour, en principe, le palais des Tuileries, qu'elle a fait construire, mais qu'elle n'a jamais habité. Eh bien, de la même manière, Marie de Médicis se dit « Je vais devoir un jour quitter le Louvre, je ne veux pas être léguée au deuxième étage ou dans les combles, il n'en est pas question. »
Donc il me faut mon palais à moi.
Et il me faut mon palais à moi. Alors, elle choisit un terrain, et c'est un terrain dans un endroit qui est complètement inattendu, sur la rive gauche. Mais il y a une raison à ça. Lorsqu'elle est arrivée à Paris, et qu'elle est entrée au Louvre dans les conditions que vous avez décrites, Franck, vous avez
triste, oui.
Mais tellement triste que pendant plusieurs jours, elle n'a pas voulu croire que c'était le Louvre. Elle s'est dit, on me fait une blague, c'est une mise en scène, ça ne peut pas être le Louvre. Et elle quitte d'ailleurs au bout de quelques jours le Louvre pour aller s'installer sur la rive gauche. Elle est hébergée par un de ses compatriotes, le seigneur de Gondi, un Italien d'origine, qui a un bel hôtel particulier, à peu près à l'emplacement où se trouve le théâtre de l'Odéon aujourd'hui. Alors, c'est beau, c'est joli. Derrière, il y a des terrains vagues, des jardins de couvents.
Ça lui laisse
la verdure,
un bon souvenir.
Ça lui laisse un très bon souvenir. Et c'est la raison pour laquelle, dès la mort de Henri IV, elle décide de regarder du côté de ces terrains-là et elle entre en négociation très vite avec un des voisins de Gondi, qui est le duc de Pinay, François de Luxembourg, duc de Pinay, pour lui acheter sa propriété.
Voilà,
dès
voilà
1611,
l'origine du nom.
À la fin, voilà, et c'est pour ça qu'on continue à parler du palais du Luxembourg.
D'ailleurs, c'est curieux qu'on dise du Luxembourg, parce qu'au départ, c'est le palais de Luxembourg.
Luxembourg hein, palais
c'est ça.
Luxembourg,
oui, c'est
tout
ça,
à fait.
Exactement.
Bon, on a pris l'habitude de dire du Luxembourg.
Tout simplement parce qu'on s'est mis sous le directoire, si je comprends bien, à parler, à dire le Luxembourg pour désigner le palais.
Absolument.
C'est pour ça qu'on s'est mis à dire du Luxembourg.
Tout à fait. Comme,
ça n'a rien à voir avec le duché du Luxembourg,
non,
le grand-duché du Luxembourg.
Pas du tout. Comme on dit l'Élysée,
ça, voilà,
ou le Louvre,
voilà,
ou les Tuileries, voilà, exactement de la même manière. Et ça vient très très vite, puisqu'elle conclut l'accord avec François de Luxembourg dès la fin 1611. L'acte est passé début 1712. Et elle décide de se faire construire un palais à cet endroit, pas seulement sur la propriété Luxembourg, mais elle achète avec une grande frénésie plein de terrains autour pour avoir un domaine important, un immense domaine, et surtout pour avoir des grands jardins. Et c'est là où l'adolescence florentine revient, parce qu'elle a vécu pendant des années au Palais Pitti, avec ses superbes jardins derrière, et elle a envie de retrouver, si l'on peut dire, un peu ce cadre de son adolescence.
Elle choisit un architecte, Salomon de Brosse.
Oui.
Que sait-on de Salomon de Brosse ?
Salomon de Brosse était un architecte expérimenté. Il avait déjà construit d'autres châteaux, il avait une réputation. Son père déjà avait déjà une expérience et d'architecte et de chef d'entreprise. Et donc c'était l'un des architectes les plus connus de l'époque, en dehors de 2 autres architectes qui sont les frères Metteuzot, qui ont participé à la construction de la Grande Galerie
du
Louvre,
oui, oui,
la Place des Vosges, Place Royale à l'époque, etc. Alors, au départ, il n'est pas impossible qu'elle ait pensé d'ailleurs au Metezeau, puisqu'elle envoie l'un des Metezeaux, alors les historiens ne sont pas arrivés à savoir lequel des deux, ce n'est pas bien grave, elle l'envoie à Florence, en demandant qu'il aille relever les dimensions d'un certain nombre de palais fers. En somme, un reportage du palais Pitti et d'un certain nombre de palais.
Vous allez voir comment on construit et quand vous aurez appris, vous viendrez le refaire ici. Voilà. C'est ça l'idée.
Et en même temps, d'ailleurs, parce que deux précautions valent mieux qu'une, elle demande à sa tante, la grande duchesse de Toscane, Florence, de lui faire faire un plan extrêmement précis de l'extérieur et de l'intérieur du palais Pitti. Donc, on voit très bien, elle cible effectivement le modèle florentin. Et puis, les propositions de Metezeau, au retour, ne lui plaisent pas. Et c'est comme ça qu'elle choisit à laisser Salomon de Brosse. Je dis à laisser parce qu'elle lui fait faire un projet. Et ce projet, alors c'est très curieux, avant de donner son accord, elle l'envoie à un certain nombre d'architectes et de princes européens en disant « qu'est-ce que vous en pensez ?» C'est presque un jury international mot. Oui. C'est très curieux.
Ça montre aussi qu'elle n'est pas toujours très sûre d'elle.
Elle n'est pas très sûre
d'elle. Sous des dehors un peu colérique.
Voilà. Et il y a alors un vote massif en faveur de Salomon de Brosse, d'où en définitive le contrat qui lui est passé.
Et d'où cette première pierre qui est posée il y a exactement 400 ans.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Vous écoutez Europe 1 avec nous au cœur de l'histoire du Palais du Luxembourg et de la vie de la reine de France Marie de Médicis. Franck Ferrand, vous recevez cet après-midi l'historien Michel Carmona.
Alors Michel Carmona, il faut qu'on explique que ce château a été quand même bâti très bien et très vite parce qu'il y a de gros moyens au départ.
Il y a de très gros moyens parce que Marie de Médicis, elle n'est plus la reine régente, mais elle est la mère du roi. Le roi n'a qu'une envie, c'est de lui faire plaisir. C'est la sérénité qui règne entre eux. Et donc, tous les moyens sont mis à sa disposition. Mais même avec tous ces moyens, il y a des problèmes. Alors, il y a des problèmes techniques parce qu'il y a eu des carrières sous le terrain. Donc, il faut les combler, les consolider, etc. Et puis, ensuite, la technique nécessaire pour la construction de ce château apparemment dépasse les moyens de beaucoup d'entrepreneurs de l'époque. Et alors, ce pauvre Salomon de Brosse...
On est à l'extrême pointe de ce qui peut se faire dans l'architecture de l'Europe de l'époque, et donc on n'a pas tout à fait les compétences. Elle tire tout le monde vers le haut, en fait.
Salomon de Brosse reçoit le contrat d'architecte, et puis on lui demande de consulter des entreprises. Et il n'en trouve aucune qui accepte de réaliser les travaux. Et il est obligé de l'accepter lui-même. Mais il était probablement meilleur architecte que chef d'entreprise. Et donc, il a des difficultés, ça avance, mais pas au goût de Marie de Médicis. Et Marie de Médicis, alors peut-être que Richelieu derrière, qui est un tempérament grippe-sous quand il s'agit des autres, est en train de chipoter sur les comptes de Salomon de Brosse. En tout cas, quoi qu'il en soit... On finit par le soupçonner de mettre de l'argent dans sa poche et on lui retire le marché de construction.
Au bout de 9 ans.
Au bout de 9 ans. Il reste l'architecte, mais on lui retire le marché de construction qu'on confie à un architecte entrepreneur qui s'appelle Marin de la Vallée, qui va exécuter très consciencieusement l'achèvement des travaux. Alors, tout ceci fait que le palais, en 1624, n'est pas encore terminé, mais il est suffisamment terminé pour que Marie de Médicis puisse s'installer dans l'aile qu'elle s'est réservée, qui est l'aile ouest. C'est-à-dire, quand on regarde la façade du palais du Luxembourg, c'est le corps de bâtiment qui est sur la droite. Et c'est l'aile dans laquelle elle a ses appartements. Elle réserve l'aile de l'autre côté, l'aile est, l'aile qui est à gauche, à son fils, le roi Louis XIII, quand il viendra lui rendre visite, ce qui va se produire d'ailleurs assez fréquemment. Et donc, elle s'installe là, le palais n'est pas terminé, il va être grosso modo terminé en 1626, mais il va y avoir une énorme inauguration en 1625 avec l'accrochage des peintures de Rubens.
Ça veut dire qu'en 2025, on aura l'occasion de refaire une émission sur le palais du Luxembourg.
Sans aucun doute. En tout cas, elle règne au palais du Luxembourg, elle est très heureuse. Très souvent, le roi vient tenir le conseil au palais. Mais, comme vous l'avez dit, les relations s'aigrissent à partir à partir de 1628, entre elle et Richelieu, donc entre elle et Louis XIII.
Et la fameuse journée des dupes dont on parlait en novembre 1630, elle a lieu au palais du Luxembourg.
Elle
justement.
A lieu dans sa chambre.
Oui, c'est ça. Qui a été pendant des années le bureau de tabac du Sénat. Maintenant, il n'y a plus de bureau de tabac. Mais une grande pièce.
Elle existe toujours, cette pièce. Hein.
Elle n'a plus du tout la même configuration parce que par la suite, il y a un grand escalier qui a été fait et qui n'existait pas à l'époque de Marie de Médicis et qui a évidemment fait disparaître un des côtés de la chambre. Mais elle est toujours là, elle est toujours visible. On peut toujours respirer l'histoire des lieux.
Alors l'espèce de guéguerre entre Louis XIII et sa mère, Marie de Médicis, va contraindre celle-ci d'abord à la résidence surveillée, elle s'évade, elle revient, elle repart, enfin c'est un peu long. Elle finit ses jours en exil, il faut le dire quand même, loin de Paris et loin de la France.
Elle finit ses jours en exil, mais d'une certaine manière chez elle. Parce que vous avez évoqué les 6 enfants qu'elle a eus avec Henri IV. Il y a 3 garçons, 3 filles. Un des garçons est mort, mais il est resté donc 2 garçons, Louis XIII, le roi de France, et Gaston, l'éternel comploteur contre son frère. Mais il y avait 3 filles, et les 3 filles sont devenues reines. L'aînée, Élisabeth, est reine d'Espagne. Et reine, par la même occasion, des Pays-Bas espagnols, c'est-à-dire Belgique et une partie des Pays-Bas d'aujourd'hui, Flandre, où va se réfugier Marie de Médicis quand elle décide de s'en aller en 1631.
Elle va
chez
sa fille.
La France, mais elle va chez sa fille.
Voilà.
Voilà, et elle est extrêmement bien accueillie. À un certain moment, elle ira en Angleterre. Pourquoi en Angleterre ?
Elle ira vivre chez Rubens, d'ailleurs, à un moment aussi.
Oui, tout à fait, bien entendu, bien entendu. Et Rubens, qui d'ailleurs joue au diplomate à cette époque, et ça n'arrange pas trop ses relations avec Richelieu. C'est pour ça qu'une partie de la commande qui avait été faite à Rubens ne sera jamais réalisée. Mais donc, elle est chez elle également en Angleterre, chez sa fille Henriette. La troisième, elle n'ira pas, mais c'est la duchesse de Savoie, princesse de Piémont, etc. Christine.
Oui, elle avait quelques points de chute, en fait.
Elle avait donc des points de chute, et encore une fois, elle sentait chez elle. Et je crois qu'elle avait un peu ce tempérament. Bon, c'est pas à cause de ses origines italiennes, mais j'ai envie de dire, c'est un peu la mamma de l'Europe.
Oui, il y a un peu cet esprit.
Et donc, il y a ce personnage.
Elle se sent chez elle un
elle
peu partout.
Elle se sent chez elle. Oui. Et elle est chez sa fille et elle lance des admonestations à son fils. Mon fils, vous ne dirigez pas bien le royaume de France. Et vous avez auprès de vous cette créature malfaisante qui s'appelle Richelieu et qu'il faut que vous dégagiez. Et l'Europe ne s'en portera que mieux. Voilà, c'est cela. Et comme finalement, elle n'est jamais arrivée à trouver le moyen de se réconcilier avec Louis XIII, elle meurt à Cologne, en exil, en 1642.
Et c'est son fils Gaston, le préféré, le comploteur, c'est lui qui va hériter le palais du Luxembourg et qui va le transmettre à son tour.
Et oui, parce que Marie de Médicis fait très logiquement un testament en faveur de son
bien
fils
sûr,
préféré.
Bien sûr.
Voilà. D'ailleurs, le testament nous donne une idée de la valeur du palais du Luxembourg. Il vaut plus 1 million de livres. Le palais, la construction et le mobilier, tout ce qu'il y a à l'intérieur, vaut presque 1 million de livres.
Donc ça a
des
été,
sommes considérables.
C'était, on peut dire, la plus belle demeure du Paris de l'époque.
Oui.
Ça a été la demeure de la grande mademoiselle. Et puis, ça va devenir celle de Louis XIV, tout simplement, qui finit par récupérer tout ça à la fin, vers la fin de son règne.
Oui, c'est 1694.
Voilà, c'est
effectivement, le palais du Luxembourg lui est donné. Donc, il le garde. Et puis, par la suite, le palais va être de nouveau transmis par un roi, qui est Louis XVI, à l'un de ses frères, qui est le comte de Provence,
voilà.
Le futur Louis XVIII. Et le comte de Provence, donc, le voilà propriétaire du Luxembourg.
C'est-à-dire que pendant la Révolution, quand on va chercher la famille royale à Versailles le 6 octobre 1789, le roi, la reine, Madame Élisabeth s'installent aux Tuileries, mais le frère du roi, le comte de Provence, lui, va s'installer au Luxembourg, en fait.
Il est chez lui. Il est chez lui. Alors, il gère très correctement le palais, il l'entretient, il le développe. Il y a eu un certain nombre d'aménagements qui ont été faits. Comme il avait besoin de l'argent, il a vendu une petite partie du terrain. C'est le terrain qui aujourd'hui est longé par la rue Guinemer. Mais il en reste suffisamment.
Avec un grand parc qui va devenir bientôt le jardin public du Luxembourg, évidemment. Alors, on n'en est pas encore tout à fait là. Le comte de Provence part en exil en juin 91, en même temps que son frère, sauf que son frère est arrêté à Varennes. Lui continue. Le comte de Provence va donc vivre très longtemps en exil. Et pendant la Révolution, que fait-on du palais alors? C'est là que ça devient intéressant pour la collectivité publique.
Bien national. Voilà, bien national. Alors, il y a en 92-93 des événements qui font qu'il est d'abord utilisé comme prison. Ensuite, jusqu'en 94, puisque même le peintre Louis David, qui était un proche de Robespierre, quand la roue a tourné, que Robespierre a été guillotiné, bah lui, il est emprisonné au Luxembourg. Il s'en tire mieux, hein, puisqu'il en sortira ensuite. Et donc, il sert de prison. Et puis, un nouveau régime s'installe. Et ce régime, toujours un régime révolutionnaire, qui est le régime du directoire.
Oui. Et il y a donc cinq directeurs qui dirigent l'exécutif.
Voilà, hein. Absolument. Partage du pouvoir, collégialité du pouvoir. Et alors, les quatre des directeurs vont loger dans le palais du duc François de Luxembourg, qu'on a gardé, que Marie de Médicis...
Ah ben, le petit Luxembourg.
Le petit Luxembourg, qui est la résidence du président du Sénat aujourd'hui, et où il y a un certain nombre de services de la présidence. Mais l'histoire du petit Luxembourg, c'est que, alors que Marie de Médicis était en bon terme avec Richelieu, elle avait décidé de lui faire cadeau du petit Luxembourg. Et donc, Richelieu habitait au petit Luxembourg et Marie de Médicis habitait au grand Luxembourg. Alors donc, le petit Luxembourg, résidence des principaux directeurs, pas tous, Barras, le plus important, s'installe dans l'appartement de Marie de Médicis. Puis, au directoire succède le consulat, trois consuls, dont le premier, Bonaparte. Et le palais du Luxembourg est donc la résidence du chef de l'État. On peut dire c'est l'ancêtre du palais de l'Élysée.
On a oublié que Napoléon Bonaparte a résidé là, pas très longtemps il faut dire, puisque avec le changement, l'évolution du régime, il va faire du Luxembourg le siège du Sénat. Ça y est, cette fois on y est, si je puis dire.
On y est. Et à ce moment-là...
L'hémicycle date de cette époque ?
Eh bien, oui, il faut évidemment créer une salle de séance. Alors les sénateurs ne sont pas extrêmement nombreux. Mais il faut quand même créer une salle de séance et on fait des travaux au premier étage dans le bâtiment qui donne vers le jardin pour créer cette salle de séance.
Alors, il faudrait bien du temps pour raconter l'histoire du palais du Luxembourg devenu maison de la Haute Assemblée, hein, puisque il y a eu le Sénat, le Conseil de la République, enfin, etc., etc. Bref, ça reste quand même la maison du Sénat. Quant au jardin du Luxembourg, ça va devenir l'épicentre, en quelque sorte, d'une certaine forme de mondanité. C'est là qu'on emmène les enfants de la bourgeoisie se promener, faire naviguer leur petit bateau sur la pièce d'eau, n'est-ce pas ? Ça fait partie, ça, on peut dire, de la vie et de la mémoire des Parisiens. Mais si vous le voulez bien, Michel Carmona, nous garderons ça pour une autre fois. Ce serait presque un sujet à part entière. Je rappelle le titre de votre grande biographie chez Fayard, Marie de Médicis, tout simplement. Merci beaucoup d'être venu une fois de plus nous éclairer sur ce lieu et sur sa principale, sa plus célèbre occupante.
On se retrouve dans un instant sur Europe 1 et vous répondrez, Franck Ferrand, à la question de Gisèle qui se demande depuis quand il est interdit de représenter le prophète Mahomet.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Cet après-midi, Franck Ferrand, vous répondez à la question de Gisèle qui, via le site internet europe1.fr, s'interroge sur l'interdiction de représenter le prophète Mahomet.
Au départ, il y a une interdiction biblique dans les 10 commandements. Voilà ce qu'on lit. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. » Le Coran, lui, ne mentionne pas d'interdiction explicite. Simplement, l'islam s'est longtemps et pas mal tenu à ce précepte du décalogue. La représentation du prophète a été plus ou moins autorisée selon les périodes, disons. On l'a souvent représenté caché, le visage caché par un voile ou derrière une gerbe de flammes. Il y a aussi des représentations où l'on voit son visage. Au milieu du 8e siècle, on va dire jusqu'au 9e siècle, c'est la rédaction des hadiths. Vous savez, ce sont les paroles, les actions du prophète. On va avoir tendance à sacraliser Mohammed de plus en plus. On le rapproche de Dieu et ce sont ces hadiths qui créent l'interdiction qui sera plus ou moins observée. Et ça nous entraînerait ça dans une émission à part entière parce qu'il faudrait voir quelles sont les circonstances et quelles sont les périodes dans lesquelles la représentation du prophète est autorisée.